Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Tout à l'heure, Troy l'avait mentionné, évidemment, celui qu'on considère comme roi aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce que les gens attendaient comme roi à l'époque. Et puis, il y a un ton un peu ironique dans le texte, il faut bien l'admettre. Parce que le roi qui viendrait dans toute sa gloire viendrait sur un grand cheval blanc et pas sur un ânon. On fait juste s'imaginer quelqu'un de taille normale comme moi a les pieds qui traînent de chaque côté de l'ânon. C'est pas très glorieux. Et aussi, ce qu'on déroulerait, ce serait le tapis rouge. Ce serait les grands bouquets, les grandes fanfares, les grandes trompettes. Mais là, c'est tout simplement les vêtements des gens qui sont jetés par terre pour servir de tapis. Mais ça, c'est après coup qu'on écrit le texte de cette façon-là. Là, et il faut voir aussi que c'est seulement Luc qui parle de cette entrée triomphale-là à Jérusalem. Mais nous, on sait que Jésus est le Seigneur, puis qu'un grand triomphe s'en venait. Et ça, c'est notre lecture après. Dans le moment même du triomphe, de l'entrée triomphale, évidemment, on peut être très motivé, très plein d'engouement pour ce qui s'en vient. Cette entrée triomphale-là, on la vit dans notre vie de chrétien très souvent. On va la vivre dans nos processus migratoires, puis je vais prendre quatre exemples qu'on va suivre tout au long du message ce matin, dans nos processus migratoires. On a une entrée triomphale aussi dans la vie à la fin de nos études. On a une entrée triomphale aussi dans la vie au moment du mariage et aussi au moment de la retraite. À tous ces moments-là, on se monte un scénario. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. On est au-dessus de tout dans le monde. Tout va nous réussir. On est plein de confiance. Quand on migre, hein, dans les derniers temps, les derniers mois, les dernières semaines avant la migration, c'est là où on se rencontre avec nos amis. On se remémore nos bons moments. On est celui qui, pour nos amis, a réussi à pouvoir sortir du pays. On nous fait des fêtes. Et puis là, on se prépare à ce qui s'en vient. On se dit, dans le pire des cas, j'aurai à chercher du travail pendant 3-4 semaines, puis ensuite, tout va partir, tout va bien aller. Puis on arrive au pays, dans le pays d'accueil, et puis c'est la découverte. On voit quelque chose de nouveau. On voit les possibilités s'ouvrir devant nous. Et il n'y a pas de limite à tout ça. On arrive dans ce pays d'accueil-là, puis les premiers mois, bien, on y est presque en touriste, hein? On visite tout, on connaît tout, on explore tout. On s'approprie le pays, on dit on va en profiter pendant qu'on n'a pas encore de travail, puis après ça, ben, on s'y mettra. Mais tout est plein de promesses. Tout va bien. Et on sent qu'on a réalisé quelque chose. Il y a toujours dans tous ces processus-là d'entrée triomphale quelque part, il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose en même temps. La fin d'un passé qu'on a bien aimé, mais qu'on sent qu'il fallait dépasser justement. Et la nouveauté du triomphe, tout ce qui nous attend, tout ce qu'on a espéré, tout ce pourquoi on a investi. À la fin des études, on vit un peu la même chose. Tout ce pourquoi on a lutté pendant des années et des années, et dans certains cas, des années, des années, des années, des années. Enfin, ça arrive. Enfin, on l'a, le carton. Et c'est pas sans peine, c'est pas sans sueur, c'est pas sans difficulté, mais on l'a. Là, on sent là, qu'on est au-dessus de tout avec ça. Puis, c'est un monde nouveau qui s'ouvre devant nous. Pendant nos stages, on a pu voir toutes les possibilités d'emploi qui rayonnaient pour nous. Pendant nos stages, on a pu voir aussi comment toutes les entreprises s'ouvrent à nous, puis veulent venir nous chercher, ils ont besoin de nous. On ne pourra jamais manquer de rien, c'est sûr. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Au moment du mariage, on ne peut pas s'imaginer que dans la vie de couple, il y aura des nuages. C'est impossible. Tout va bien. La mariée, durant toute l'année où elle se prépare et toute l'année qui suit le mariage, c'est la plus belle. Le marié, lui, ben, c'est le plus chanceux parce qu'il est avec la plus belle. Mais ils sont vus, tout le monde les célèbre, tout le monde leur fait des fêtes. Et puis, c'est plein de promesses. Après ça, c'est des enfants. Les enfants, évidemment, il n'y a pas de difficultés qui viennent avec ça. Ce n'est que de la joie et du bonheur. Et puis, un autre moment aussi de la vie où on vit cette entrée triomphale-là, c'est la retraite. Je me souviens donc qu'eux autres s'imaginaient, mais jouer 375 jours, 365 jours par année au golf, c'était le bonheur pour eux. C'était des voyages, ils se planifiaient des voyages, ils se planifiaient des parties de golf. Tout, puis évidemment, leur, ce qu'ils allaient avoir à la retraite, je ne sais pas comment ils faisaient leurs calculs, mais ils en faisaient plus d'argent que quand ils travaillaient. Et tout ça, ça dure un bon temps. Et on sent vraiment qu'on entre dans une étape nouvelle et qu'on est renouvelé, qu'on est enfin porté à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est normal, parce que si on est fils et filles de Dieu, c'est à ça qu'on est promis. Dans le processus d'immigration, le pays est encore merveilleux, mais tout d'un coup, l'emploi se fait attendre. Certains chocs culturels commencent à se faire sentir. Les gentils Québécois sont moins gentils. Et tout le reste. Les difficultés apparaissent. Souvent, on est obligé d'aller à l'aide sociale. À la fin des études, ben là, c'était le grand triomphe. Et puis là, tout d'un coup, ben, encore une fois, le travail se fait tarder. Mais on nous offre quelque chose. Si tu veux monter dans cette belle compagnie-là, c'est certain que tu ne peux pas commencer comme en te faisant considérer ton doctorat tout de suite. Mais on a besoin de quelqu'un pour livrer le courrier ou pour faire le ménage. Tu peux commencer par là. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Après quelques années de mariage, la routine entre. Il y a d'autres choses plus merveilleuses que la mariée qui apparaissent dans nos vies. Déjà très tôt, beaucoup plus tôt qu'on pensait, il y a des choses qui sont mises en question. Dans la retraite, ben, à un moment donné, là, après une saison de golf, on trouve qu'on ne fait pas grand-chose d'utile. Là, évidemment, les enfants arrivent et disent, « Papa, maman, j'ai quelque chose d'utile à te demander. Veux-tu garder tes petits-enfants? » C'est agréable les premières fois, c'est le fun. Mais il manque peut-être quelque chose. Bon, on se dit, c'est pas grave, là, on vient de toucher le fond, on est dans le pire, là. C'est sûr, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, puis ça va remonter. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne soupçonnait pas à ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas encore tout à fait touché le fond. Le fond était plus profond que ça. Et regardez Jésus, lui, ce qu'il a vécu après l'entrée triomphale, ça a été la passion. Ça a été des souffrances. Puis là, on se dit, bon, ben, il n'y a pas pire que se faire flageller, il n'y a pas pire que se faire humilier. Puis finalement, on le cloue sur la croix. Ce qui ferait apparaître en français le mot plus pire qu'on utilise parfois. Et oui, il y a quelque chose de pire que pire qui arrive. Et puis la tentation est forte. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça m'arrive, moi pourtant qui crois en toi, Seigneur? Comment ça se fait que toutes ces mauvaises choses-là se passent pour moi? Comment ça se fait que je souffre autant? Comment ça se fait que j'arrive à un moment donné où je ne vois plus la lumière au bout du tunnel? Parce qu'il n'y a plus là la lumière, là. Puis tout ce qu'on se dit, c'est faut endurer ça jusqu'à temps qu'on meure. Puis vient une étape à un moment donné du croyant. Il ne rejettera pas nécessairement Dieu, il peut le faire parfois, mais il va se dire, bon, on prend notre mal en patience. Puis la plus belle victoire, ça peut être finalement le plus gros échec. Parce qu'on est tellement découragé. On n'a tellement plus d'espoir. Il n'y a tellement pas de lumière au bout du tunnel. Des fois, malheureusement, ça prend des tournures dramatiques. Des gens vont se dire, bon, après avoir mal vécu dans un pays étranger, qu'est-ce qu'on fait? On s'en retourne, mais on n'a plus les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Des étudiants vont se résigner à dire, mon diplôme, on ne vaut plus rien, je vais faire d'autres choses. Toujours bien bon pour servir des bières. On va voir d'autres, ce qui n'est pas nécessaire, ce n'est pas mauvais comme travail. Hein? Un travail, c'est un travail. Mais on a été obligé de se piler sur le cœur, on a été obligé de finalement de succomber à l'obscurité qu'on voyait devant nous. Les mariages vont se briser aussi. Ou passer très, très proche de se briser. Et la retraite, ben, on sait tout ce qui arrive à la retraite. Des dépressions, des fois sévères. J'ai vécu quelque chose d'assez difficile à un moment donné, quand mon père a pris sa retraite. Le jour qu'il a pris sa retraite, je suis allé, il travaillait comme mécanicien d'avion. Je suis allé avec lui chercher ses outils, parce que les outils d'avion, c'est gros. Ça fait qu'il fallait deux pour transporter tout ça. Et ce jour-là, c'était la fête. Hein? On a célébré, on a bu une bonne bouteille de cognac. C'était très agréable, on a partagé beaucoup. Et quelques années après, mon père a fait une psychose. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé tuteur de mon père, à 24 ans. C'était pas tout à fait non plus ce que je m'étais imaginé après mes études, être à la maison avec mon père. Étant son tuteur, si je lui fais pas manger, il mange pas. Il n'est pas capable de s'en faire. Les choses se sont rétablies, heureusement. Mais les choses se sont rétablies, j'ai rien à y voir dans tout ça. C'est le Seigneur qui nous éclaire. Parce qu'on sait, nous, d'avance, on croit en le jour, c'est plate les films quand on connaît le punch, mais nous, on le connaît le punch de la fin. Parce qu'on croit en la résurrection, on croit en la lumière du Seigneur qui vient sur nous. Et puis, c'est ce qui nous permet de dire, bon, je ne sais pas quand ça va arriver, on ne voit vraiment pas la lumière au bout du tunnel. On lit la Bible, puis on dit, il faut que ça arrive. Puis, ça n'arrive pas. Puis, on continue à prier, on continue à prier. Puis, des fois, on stand, on ne veut plus prier, on met ça de côté. Après ça, on ne sait tellement plus quoi faire parce que tout est tellement noir, tout est tellement obscur qu'on revient à la prière. Même les premiers éclats de lumière qui apparaissent dans notre vie nous donnent même pas d'émotion. Au mieux un soulagement, au mieux un soupir de soulagement. Et puis tout d'un coup, on découvre autre chose. On découvre que le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un sur lequel je m'appuie. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui est en moi, qui vit en moi, qu'il faut que je libère, il faut que je le laisse exprimer en moi. Moi, je suis son support, moi, je suis une façon pour lui d'exprimer l'Évangile et la foi dans le monde. Mais ça ne se découvre pas facilement comme ça. Quand j'étais dans ce processus-là avec mon père, à un moment donné, je priais. Puis je disais, Esprit Saint, fais quelque chose, parce que là, je suis au bout de tout. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment on va s'en sortir. Puis un matin, mon père dit, parce qu'il était encore dans sa psychose, il dit, l'Esprit m'a révélé quelque chose. Puis là, je me suis dit, bon, pourtant, je n'avais rien fumé. Mais je me disais, comment ça peut être possible? Bon, c'était quelque chose d'assez loufoque encore. Sauf qu'à travers ça, ça nous a permis de reconstruire. Parce que l'Esprit aussi nous rend responsables de nos actes. Ce n'est pas « assis-toi là, attends, puis je vais tout faire ». Ouh, et la richesse va tomber, le travail va nous tomber dessus. À peine on aura le temps de se sauver pour pas que ça nous frappe. Non, l'Esprit nous arrive dessus, mais on a à travailler. On a à faire quelque chose. On ne sait pas quoi faire encore. On ne comprend pas ce qui va se passer. On ne comprend pas la multitude infinie de refus, de rejets qu'on a jusqu'au jour où, à un moment donné, les choses commencent à s'ouvrir, puis on regarde vers le passé, puis on se dit, ouf, que j'étais donc niaiseux de ne pas avoir cru. Et pourtant, hein, ça arrive, on le comprend, et ça arrive encore. On le sait que, de toute façon, les choses vont aller dans le sens du plan de Dieu, puis on se remet en question à chaque fois que des épreuves comme ça nous arrivent, à chaque fois qu'on fait face à l'obscurité. Jésus, après sa mort, une mort terrible, les gens le voyaient comme roi, les gens le voyaient comme étant un leader pour le pays. Ils n'ont pas donné la chance, les Romains, de vivre ça. Ils l'ont aplati tout de suite. Ils l'ont contrôlé tout de suite. Mais il est revenu à la vie. Et une vie renouvelée. Il n'est pas revenu à la vie d'avant. Il y a des cas de résurrection dans le Nouveau Testament, par exemple la résurrection de Lazare, où Lazare revient à sa vie humaine. Il va mourir encore une fois. Non. Avec Jésus, c'est un triomphe. Avec Jésus, on se débarrasse de la pire des choses qui peut nous arriver. Pas parce qu'on va l'éviter, mais parce qu'on va passer par-dessus, parce qu'on va franchir les frontières que cette obscurité-là nous impose. En Jésus, on peut vivre ça. C'est une résurrection au quotidien. On ne peut pas dire, ah, mais ça, la résurrection, je ne suis pas sûr, tu sais, qu'on vienne à la vie. Mais on vient à la vie à chaque jour. Quand on pense à tout ce qu'on a pu avoir vécu dans la vie, quand on pense à ce que la famille Kouakou, par exemple, vit aujourd'hui, ça, c'est proche de la crucifixion. C'est de la souffrance intense. On fait juste prier pour que le Seigneur soit avec eux pour leur montrer la voie de la résurrection. Comment ça se fera? C'est le Seigneur qui le sait. Et si on le savait? Si on le savait, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, comme humains, pécheurs, pour combattre ces réalités-là, pour combattre cette obscurité-là? Et le Seigneur nous préserve, finalement, d'une souffrance inutile en nous éclairant. En nous éclairant constamment et en disant, à chaque fois qu'un problème se présentera, je serai là pour t'aider, je serai là pour t'éclairer. Mais anticipe pas l'obscurité. Parce que là, tout ce qu'on va voir quand on se projette trop loin, c'est que du noir. Il m'est arrivé des moments dans ma vie où je me disais, si je meurs aujourd'hui, je voudrais qu'on mette sur mon épitaphe « mort-né ». Je veux que personne voie, je veux que personne sache tout ce que j'ai eu comme difficulté dans la vie. Je veux que personne sache cette humiliation-là que j'ai vécue. Mais il y a tout un espoir qui s'installe. Parce que ça, évidemment, il faut l'exprimer. Quand on sent ça, il faut arriver à le dire. On n'a pas à le dire, à jouer aux prétentieux et à le dire tout le monde pendant une prédication, comme je viens de le faire, mais à le dire en prière, par exemple, dans l'intimité avec le Seigneur. Regarde, Seigneur, je suis là. Je te remets ça entre les mains. Fais quelque chose avec moi. Sors-moi de là. Et la Pâque ne se passe pas toujours en un jour. On voudrait bien, après avoir dit tout ça, je vais aller me coucher, puis demain matin, le triomphe va reprendre là où je l'avais laissé. Puis ce n'est pas tout à fait comme ça. Et ce ne sera pas nécessairement comme on l'avait pensé, ce triomphe-là. Parce que le triomphe qu'on attendait de la part de Jésus, ce n'est pas ça qu'on a vu. C'est autre chose, complètement autre chose. Nos triomphes sont aussi complètement autre chose que ce qu'on peut espérer parfois. Mais il y a ce moment-là de la résurrection. Un moment de résurrection, vous savez, étymologiquement, directement, là, résurrection, ça veut dire se dresser debout. Dieu nous relève, mais nous aussi, on a à faire l'effort. On a déplié les jambes, on a faire de la force dans nos bras pour se donner une poussée, pour revenir à la vie, pour reprendre notre place, pour lutter. Je pense toujours que cette résurrection-là n'est pas qu'individuelle, elle est aussi collective. Parce que dans les périodes de difficulté, on a toujours des gens autour de nous. Le Seigneur va utiliser les gens qu'il y a autour de nous de façon plus ou moins appropriée, on pourrait penser, dans le moment même des événements, mais il va utiliser les autres. Soit parce que les autres vont nous provoquer, puis qu'ils vont nous donner ce qui nous manque pour lutter, pour foncer. Ça arrive, ça, parfois. Soit parce que les autres vont nous appuyer dans nos faiblesses et vont nous accueillir comme ça. Mais le Seigneur utilise tout ce monde-là. C'est en collectivité qu'on vit ça. C'est en Église qu'on vit ça. L'Église est le support pour vivre ça. C'est là où je peux dire, il y a des gens ici qui vont m'aider dans ce processus de résurrection-là. Pas nécessairement comme eux le pensent. Probablement, ils n'ont aucune idée de ce que vous avez vécu. Mais ils ont un rôle à jouer parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Seigneur qui agit à travers nous. Et le Seigneur, agissant à travers nous, va utiliser les personnes selon leurs dons, selon leurs talents, selon leurs capacités, leur volonté aussi, pour intervenir, nous alimenter dans nos vies. Et nous, on va être utilisés comme ça. Des fois, on dit des choses, puis les gens nous disent « Ah, ce que tu as dit ce fois-là, c'était donc, ouf, que j'y avais pas pensé. » Ça ne venait pas de moi. Mais c'est ça, le Seigneur nous utilise, parce que celui qui nous ressuscite, celui qui ressuscite l'humain, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui est en nous. Il faut avoir cette conviction-là forte, cette foi-là forte, que le Seigneur, on le porte dans notre cœur. On est en relation constante avec lui, il est en relation constante avec nous. Même quand on le rejette, il nous tend la main, il attend juste qu'on aille vers lui. Comment on va vers lui? On le prie, on lit la parole. On se met en disposition de l'entendre, pas juste dans la mystique, surtout à travers ceux que lui a placés dans nos vies pour intervenir pour nous. C'est essentiel pour cette rénovation-là, pour cette résurrection-là, d'avoir Christ en nous. C'est certain que les gens vont dire, ceux qui ne croient pas, de toute façon, tout s'arrange, il n'y a pas de problème. Puis que de fait, dans leur vie, on peut voir que des choses ont pu s'arranger. Mais des choses s'arrangent de façon illusoire. Les problèmes ne se surpassent pas, les problèmes ne se règlent pas, les problèmes se cachent, les problèmes s'enfouissent. Combien de gens, on va entendre parler, hein, des gens qui ont vécu une difficulté dans leur vie, ils ont résolu ça, aucun problème, par eux-mêmes. Et puis là, 20, 30, 40 ans plus tard, ça refait surface. Parce que ce n'est pas par eux-mêmes que ça va se résoudre. Il faut faire un effort pour passer par-dessus ces temps d'obscurité-là. Il faut se donner des coups de pied. Mais c'est le Seigneur qui fait le travail. Nous, on a à ouvrir notre cœur, notre corps, notre esprit au Seigneur, et puis lui travaille en nous. Et c'est la seule chose qui puisse nous garantir que cette rénovation-là que le Seigneur nous promet n'est pas illusoire, parce qu'elle est bâtie sur quelque chose de solide. C'est là que la retraite ne sera pas juste des activités de loisirs. La retraite va devenir aussi un temps de prière, un temps de recueillement, un temps d'échange avec les autres. C'est là aussi que Le mariage ne deviendra pas juste une usine à élever des enfants ou autre chose, mais une première cellule d'Église. Parce que la plus petite cellule d'Église qui existe dans nos sociétés, c'est le mariage. Ensuite vient la famille. Prier ensemble. Invoquer le Seigneur ensemble. Dans nos processus migratoires, c'est quand on va découvrir que tous nos patriarches sont passés par là. Ils sont partis vers la terre que Dieu leur a montrée. Ils ont eu à mourir à quelque chose, à naître à quelque chose de nouveau, à s'adapter, à comprendre quelque chose de nouveau, une langue nouvelle, une culture nouvelle, une symbologie nouvelle. Et là, ils font leur place petit à petit. Leur vie est renouvelée, ils ont été transformés. Mais ça va se faire dans la prière. Ça va se faire dans l'ouverture que la prière et que la parole de Dieu nous donne. Et dans la carrière de quelqu'un après ses études, il pourrait se dire, c'est ça, bon, tout ne s'est pas passé comme je voulais après mon bac, je vais faire une maîtrise. Tout ne s'est pas passé comme je voulais après une maîtrise, je vais faire un doctorat. Tout ne s'est pas passé comme je voulais après mon doctorat, je vais en faire un autre. Et finalement, rien s'arrange. Mais dans la mesure où il offre sa profession, où il offre son travail à Dieu, là, Dieu peut l'amener en dehors de ça, peut l'amener en dehors de sa formation, peut-être. Mais il va le remplir de l'esprit, il va le rendre satisfait de ce qu'il va produire comme travail. Parce qu'on le donne à Dieu. Faites-moi ce que tu veux, que ce soit avec ou sans mes diplômes. Faites-moi ce que tu veux, Seigneur. Amen. Donc, demandons au Seigneur pour terminer. Seigneur, tu nous as fait entrer triomphalement dans la vie, Seigneur. Tu sais tout ce qu'on a à vivre comme difficulté, Seigneur. Tu sais comment l'ennemi attaque tes enfants, Seigneur. Mais tu es là pour nous, Seigneur. Envoie-nous ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour nous montrer la voie de la résurrection, la voie de la rénovation, Seigneur, pour vivre libre, en paix, en justice, complètement justifié en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus notre Seigneur, Jésus Christ, nous te prions. Amen.